Sujet de discussion.
Bonjour et bienvenue donc à ce nouveau numéro de sujet de discussion qui a pour thème aujourd'hui l'intelligence artificielle est-elle une solution de valeur pour l'humanité ? Et nous verrons également le cas de l'Afrique. Et pour en parler, nous recevons Jules Yao, spécialiste des questions informatiques, cofondateur d'Abidjan Data Science Forum et Cloudive Côte d'Ivoire. Bonjour Jules Yao.
Bonjour Ghislain.
Bonne arrivée.
Merci pour l'invitation.
Très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous sur ce sujet très passionnant. Et voilà. Et puis en face, nous avons le regard religieux porté ici par l'imam Diaby Almami de la mosquée Al-Farouk. Bonjour imam.
Bonjour.
Et bonne arrivée également.
Merci infiniment pour l'invitation.
Voilà. Et vous êtes dans un monde naturel, pas artificiel.
Oui, effectivement.
Ok, bien. Et toujours dans la même lancée hein, de cet avis religieux avec la foi et musulmane et chrétienne, nous avons également Jean-Marc Lécadou, à la base marketeur, et qui est aussi chrétien catholique. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Ghislain Koulibaly. D'accord, très content d'être sur ce plateau avec nos frères et sœurs pour parler de ce sujet. Ouais. Et j'espère qu'il ne s'agira pas d'une chaude empoignade, mais d'un échange enrichissant,
bien sûr,
de part et d'autre. C'est... Donc on en appelle à l'esprit de Dieu afin qu'il y ait beaucoup d'humilité, d'enrichissement mutuel dans les échanges.
C'est ça.
Je vous remercie.
Merci bien. Et puis il est important justement d'avoir un regard juridique sur ce sujet, et au milieu de ces deux entités-là, en ce qui concerne les scientifiques et aussi les religieux, nous avons une juriste, elle est spécialiste de la cybersécurité, et il s'agit de Dr Janine Tanobian. Bonjour.
Bonjour Ghislain, merci encore une fois de me convier à partager et à discuter autour d'un sujet aussi important qu'est l'intelligence artificielle.
Merci bien. Alors, sur ce, on va commencer. Et vu que le sujet porte sur l'intelligence artificielle, là, on va se tourner à présent vers le spécialiste hein, des questions technologiques, informatiques, à savoir Jules Yao, pour nous définir hein, déjà ce qu'est l'intelligence artificielle ou l'IA.
Merci, Ghislain. Merci, Ghislain, pour cette question. Alors, il est bon de retenir que l'intelligence artificielle, vous serez étonné, mais... c'est juste une intelligence artificielle. Et pourquoi elle est aussi importante aujourd'hui ? Pourquoi on en parle autant ? Je ne sais pas, parce que c'est une question qui est en train de prendre de la place là où on pense que c'est les humains qui devraient plutôt prendre de la place. Les gens ont peur. On se dit, mais est-ce que les robots vont nous remplacer ? Sinon, la meilleure définition de l'intelligence artificielle, c'est que c'est une intelligence. Elle est simplement artificielle. Donc ça veut dire, ici, on imite la réflexion humaine. Pas la réflexion profonde, mais c'est juste la façon de faire, l'ensemble des logiques. Je dis par exemple, on va faire une sauce arachide. Donc la recette, ça c'est un ensemble d'algorithmes. L'ensemble des algorithmes, c'est quoi ? C'est le raisonnement, la logique derrière. Donc on veut arriver à quelque chose, on a une logique. On va prendre d'abord l'autoroute, on va prendre après à gauche, on arrive là, on tourne à droite. Mieux vaut éviter cette voie parce qu'il y a un contournement ou bien il y a un sens interdit, donc allons à gauche. C'est juste ça. Ne passe pas à gauche parce qu'il y a un sens interdit là-bas. Qu'est-ce qu'on va dire à la machine de faire ? Seulement que c'est un ensemble d'instructions qu'on lui donne.
Et est-ce que l'intelligence artificielle se retrouve au-delà des ordinateurs ? Est-ce qu'on peut retrouver l'intelligence artificielle dans certains autres objets, tels que les véhicules, les maisons même ? Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à ce point-là ?
Très intéressant. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui... D'abord, il faut dire qu'elle est complètement dématérialisée. Je dirais que ça va un peu plus loin. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les data centers. On a des data centers aujourd'hui qui ont des intelligences artificielles. Les data centers, c'est un ensemble d'ordinateurs qui sont chargés de sauvegarder les données. Donc, c'est des bases de données énormes. Azure, Amazon Web Services et tout cela. Depuis ces bases de données énormes-là, il y a des algorithmes, c'est-à-dire des façons de réfléchir pour les ordinateurs qui permettent de pouvoir réguler un certain nombre de choses. Le trafic aérien, les voitures autonomes, c'est-à-dire sans chauffeur, On a les téléphones qu'on a, par exemple. Ça, ce sont des... Tout le monde, voilà pourquoi je dis que tout le monde utilise l'intelligence artificielle avec nos téléphones. On a Google Maps, on cherche la radio de la paix, on tape Google Maps, rapidement on est arrivé. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, elle est complètement dématérialisée. On a ça aussi dans les hôpitaux. On a un médecin qui est à Chicago qui opère quelqu'un à Trècheville depuis l'intelligence artificielle avec des bras articulés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais on reviendra là-dessus en détail.
Bien sûr. Alors... On va demander au regard religieux ici de nous dire vraiment quelle est l'appréhension que vous avez justement face à cette solution qu'est l'IA, l'intelligence artificielle. On va commencer avec l'imam Diaby Al-Mami.
Effectivement, nous trouvons que l'intelligence artificielle en fait a toujours été, je dirais, un objectif humain. C'est-à-dire l'humain, il a toujours cherché à se compléter par d'autres choses. Voilà, depuis les premiers humains, n'est-ce pas, on a toujours cherché à fabriquer des outils, n'est-ce pas? Voilà, mais il faut dire que sur le plan de l'éthique religieuse, nous ne jugeons pas l'outil. Nous jugeons plutôt l'usage qu'on fait de l'outil. Donc, le technicien disait tout à l'heure que c'est dématérialisé. Et nous trouvons effectivement, non seulement que l'intelligence artificielle peut être dématérialisé, mais nous la trouvons aussi neutre. Donc, tout va dépendre de l'homme, n'est-ce pas, qui va l'utiliser et dans quelle orientation, n'est-ce pas, il va aller avec cette intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas se prononcer là-dessus a priori, parce que tout dépend de l'usage qu'on peut en faire.
Oui, voilà. Ça c'est vraiment intéressant. Jean-Marc Lecadou, sur cette question, l'appréhension, votre appréhension justement de l'IA, l'intelligence artificielle.
Alors moi, je veux saluer franchement le propos de Monsieur l'imam, mon frère, parce qu'il a en quelques mots résumé le regard que l'homme de foi pose sur toutes les innovations. En vérité, la foi, la spiritualité ne juge pas à la création en tant que telle de l'objet, mais à l'intention ou à l'usage qu'on en fait. Alors, je vous donne un couteau, il peut servir à couper de la viande, c'est utile. Ce même couteau peut être utilisé pour poser un homicide, donc un crime.
Ouais.
Voilà. Alors ici, pour être beaucoup plus simple, c'est pas tant une appréhension qui est faite sur cette innovation qui, pour moi, n'en est pas une. Parce que, fondamentalement, et sur toute la ligne, l'intelligence dite artificielle, j'ai un problème avec intelligence artificielle. Déjà, ça
la commencé, terminologie.
Voilà. Déjà, ça a commencé, mais on reviendra dessus. Donc, pour moi, ce n'est pas tant d'une appréhension qu'on exprime, mais c'est des limites que cette trouvaille doit forcément s'imposer afin...
Qu'elle doit s'imposer.
C'est important.
La juriste est là.
Voilà. Donc des limites que cette trouvaille doit s'imposer afin qu'il n'y ait pas de désordre dans la société. Et quand je parle de désordre, je veux parler donc du rapport de l'homme à l'homme. Il ne faut pas que cette trouvaille puisse être un outil donc d'avilissement, de domination, de destruction des intelligences.
Ouais.
Voilà ce que je peux dire, je veux m'arrêter. Sinon,
On reviendra justement sur ce point-là, pour parler de la question des limites, parce que je crois que les recherches se poursuivent et
absolument.
Au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui, il y a encore des choses extraordinaires ou inimaginables
absolument.
Qui sont en train d'être explorées. Mais avec Dr Janine Tano, spécialiste en droit, surtout des questions liées à la cybersécurité, informatique et tout cela, numérique, je dirais. Là, on parlait de certaines limites. Et vous, en tant que femme dans le droit, dès que vous voyez cette question d'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous vous dites ?
Merci. Déjà, c'est-à-dire, mon propos va embrasser les trois interventions. Pourquoi ? Déjà parce qu'il a défini l'intelligence artificielle et il nous a donné la clé. C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle, on va brasser beaucoup de données. On va avoir besoin de beaucoup d'informations. Pour que ce soit décisionnel, on va devoir les croiser. Et quand on parle d'intelligence artificielle ou d'imitation des habitudes humaines, ça veut dire que déjà la personne, vous l'avez identifiée, vous avez collecté ces informations. Pour pouvoir les croiser, vous avez identifié aussi ses comportements que vous allez maintenant observer pour imiter. Donc, tout de suite, moi, quand j'entends intelligence artificielle, c'est l'homme qui va se décharger sur des outils. Il va créer des codes pour pouvoir communiquer par ces outils-là, sans forcément lui prendre toute la difficulté, mais se décharger sur ces outils. Le problème, effectivement, il faut avoir des limites dans la mesure où, quand vous collectez des informations, il faudrait savoir dans quel but est-ce que vous les collectez. Si, par exemple, vous créez des cartes de fidélité, parce que quand vous avez la carte de fidélité, vous allez voir sur la carte de fidélité mon nom, mon prénom, là où j'habite, mon âge, et puis ce que j'ai l'habitude d'acheter. Donc, vous allez imaginer ce que j'ai l'habitude d'acheter et vous allez prédire ce que je vais vouloir acheter en fonction de ce que j'ai l'habitude. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va venir et va devoir être limitée par rapport aux objectifs de tout ce qui est collecté. Est-ce que c'est pour définir le comportement à la suite du comportement, c'est pour définir le comportement d'achat? Est-ce que c'est pour catégoriser quel type de client je suis? Est-ce qu'on va regarder les attentes du client que je suis? Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, on va rajouter une couche d'informations. Ce qui fait qu'on aura beaucoup d'informations qui vont être brassées. Et donc là où on parle de limite, c'est de savoir, et la loi le dit, mais on va revenir là-dessus, c'est de savoir à quel moment je m'arrête, à quel moment je protège, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a toutes les questions de logique, mais aussi de sécurisation des informations que je collecte.
Mmh. Ouais. À quel moment on s'arrête, à quel moment on constate des limites? Jules, est-ce qu'il y a... Il y a des limites justement concernant cette question d'intelligence artificielle.
Alors, c'est une question intéressante sur laquelle je ne suis pas très souvent à l'aise.
Oui.
dans la mesure où, lorsque le cerveau humain découvre quelque chose qui lui plaît, il est difficile d'arrêter. Ça, c'est le problème des humains. L'intelligence artificielle actuellement soulève beaucoup de questions dans la mesure où ceux-mêmes qui l'ont mis en place, je parle d'abord de ChatGPT par exemple, qu'on va définir plus tard, eux-mêmes cherchent des moyens de pouvoir le ralentir. Le problème, quand vous donnez un bonbon sucré à un enfant, c'est qu'après l'avoir mangé, il en demande aussitôt. Et donc, c'est complètement difficile de pouvoir limiter actuellement l'usage de l'intelligence artificielle dans la mesure où lorsque vous arrêtez ça, lorsque vous coupez la tête par ici, il y a d'autres têtes qui sortent de l'autre côté. Et les humains ont encore le problème, c'est quand vous leur dites interdit de faire ceci, alors là c'est en ce moment qui ça donne le plus
à cœur joie.
Donc la chose ici, c'est de pouvoir le réglementer d'une façon, je vais dire, morale. On va revenir là-dessus. Si vous voulez donner des réglementations techniques, ils vont toujours trouver des moyens de pouvoir sauter la clôture et se trouver de l'autre côté. Actuellement, le véritable problème de l'intelligence artificielle, c'est de se trouver dans le dark side, c'est-à-dire au niveau où des groupes terroristes, grande criminalité et grand banditisme s'en accaparent.
Oui.
Donc, je pense qu'à ce niveau-là, mieux vaut trouver des limitations morales que de pouvoir chercher des limitations techniques, ce qui serait complètement difficile dans la mesure où l'intelligence technique est complètement démocratisée.
La question de l'éthique au niveau de la religion, elle intervient justement à quel niveau, de façon précise, Imam Diaby Al-Mami?
Vous savez, la religion a deux vocations. Donc la première vocation, la religion veut aider les gens à réussir leur vie d'outre-tombe. Mais en amont de cela, on doit vivre sur terre. Et tout se passe ici. Même le salut éternel s'acquiert ici. Donc, une chose est évidente, toutes les religions, notamment célestes, sont d'accord pour dire que le monde dans lequel nous vivons est au service de l'homme et non le contraire. Donc, quel que soit ce que nous mettons en place, quel que soit ce que nous découvrons, il n'y a rien qui doit permettre que les découvertes de l'être humain soient nuisibles à l'être humain. Donc, on peut faire des recherches, on peut approfondir des recherches, on peut aller, n'est-ce pas, à l'innovation à cœur joie, mais la limite est que l'être humain est toujours prioritaire. Mm-hmm. L'être humain est sacré. Et Dieu, il a fait de l'être humain son lieutenant sur terre. Donc, on découvre, on développe, on innove, mais la limite, c'est que ce ne soit pas nuisible à l'homme. Ça ne se retourne pas, n'est-ce pas, contre l'être humain. Voilà, donc si nous sommes d'accord sur cette base-là qui dit que ce que nous faisons doit servir l'humain, dans ce cas, on y va. Et dès lors qu'on va découvrir que si nous faisons un pas de plus dans telle direction ou dans telle autre direction, ça va être nuisible à l'être humain individuel ou à l'être humain collectif, dans ce cas, il faut s'arrêter. Donc, il faut retenir que ce que la religion nous enseigne, c'est que la vie d'un seul être humain, c'est-à-dire que l'homicide est synonyme de génocide. Ça, c'est le point de vue de la religion. C'est-à-dire, chez nous, nous ne faisons pas de différence entre un homicide et un génocide. Parce que Adam, c'était un individu. Tuer Adam aurait été, n'est-ce pas, synonyme de tuer toute l'humanité. N'est-ce pas?
Donc il y a cette préservation-là de
voilà, de donc il faut préserver l'humanité tout entière à travers l'humain individuel.
D'accord.
Voilà.
Jean-Marc Lecadou, la question de l'éthique au niveau de la religion, de la foi, comment est-ce qu'elle s'opère et comment est-ce qu'elle se laisse voir?
L'Église, pour notre part, a donc réfléchi sur la question, sur toutes les questions d'éthique, de bioéthique, enfin, toutes les questions relatives au développement technologique, et c'est la problématique des limites qu'elle a du mal à s'imposer, justement. Et en la matière, comme l'imam a eu à le dire, la religion a pour but, justement, non seulement de préserver la vie sur terre, mais en le faisant, elle invite des notions telles que la dignité et la liberté prises dans leur essence divine. Donc, dignité, liberté, deux notions, on peut en citer à profusion, prises dans leur essence divine. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait ne doit pas être des jougs contre notre dignité et notre liberté. À partir du moment où la science, ou disons de façon plus générique, restons dans le contexte de l'intelligence, donc l'intelligence humaine s'inscrit dans une logique qui écrase la dignité, qui bafoue la liberté, en ce moment, on n'est plus dans une démarche humaine, encore moins divine, on est dans une démarche complètement, j'allais dire, diabolique. Et ce n'est pas de l'extrémisme, encore moins du radicalisme de le dire, c'est simplement logique. Je reviens encore avec mon exemple, vous prenez un couteau à usage alimentaire, c'est bon, mais ce même couteau utilisé pour commettre un homicide, eh bien, il est négatif. Il peut donc vous envoyer en prison. Et l'Esprit Saint, il est dispensateur de tous les dons. Et l'un des dons les plus importants, à mon sens, c'est le don d'intelligence. Alors, l'intelligence perçue par l'homme de foi, je parle aussi avec l'accord de mon ami et frère l'imam, l'intelligence est un don de Dieu. Et toutefois, qu'on parle d'intelligence artificielle, je veux revenir sur ça parce que la corruption des mœurs commence par la corruption des mots. Voilà. Donc, toutefois que l'intelligence devient artificielle, moi je pense qu'elle perd en valeur, elle perd en dignité, elle perd en importance. Et dès lors qu'elle perd en valeur, en dignité, en importance, pour le moins qu'on puisse dire, on peut la soupçonner de ne pas être sur le chemin de la liberté de l'homme, de la dignité de l'homme, pour sa marche vers le Créateur. Et la science, contrairement à ce qu'on a pu croire jusqu'à aujourd'hui, n'est complètement pas opposé à la religion. Bien au contraire, les imminents hommes de foi sont des personnes versées dans les sciences.
Radio de la paix, Se parler, s'écouter, se comprendre.
Bienvenue, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission Sujet de discussion et nous sommes dans la deuxième partie de cette émission qui porte aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, l'IA, et la question qu'on se pose, est-ce que l'IA est une solution de valeur pour l'humanité ? Intelligence artificielle, déjà la terminologie. Jean-Marc n'est pas du tout d'accord hein, dans son explication, on l'a bien compris. Et est-ce à dire que déjà dans la terminologie, c'est de remplacer l'homme ?
Ah non, absolument pas. L'intelligence artificielle ne peut pas se targuer de pouvoir remplacer l'homme parce que l'homme est irremplaçable.
Oui.
C'est pourquoi on est là d'ailleurs autour de cette table. Je pense que l'objet ici, c'est de pouvoir imiter le fonctionnement de la logique humaine. C'est pourquoi d'ailleurs l'intelligence artificielle du même pour, je peux dire, au moins 80 à 70% se base sur ce qu'on appelle le réseau de neurones. Donc le réseau de neurones, c'est une partie de l'intelligence artificielle, je vais dire du machine learning, c'est en deep learning, c'est avec beaucoup plus de précision, qui essaie d'imiter comment est-ce que les neurones dans le cerveau se communiquent entre eux les messages. Donc c'est de la même façon que ça a été produit. Donc on a regardé comment est-ce que le cerveau fonctionne d'abord, et on s'est dit, ben, on va s'aider, comme l'imam disait, l'homme aime s'aider avec quelque chose. On va s'aider avec cette chose pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Donc à l'origine, il n'est pas question pour l'homme de créer un monstre de Frankenstein. À l'origine, pour lui, c'est de pouvoir trouver un intendant, quelqu'un qui peut l'aider dans l'économie, dans l'éducation, dans la science, dans la médecine et bien d'autres. Donc l'intelligence artificielle ici, ce qui est bon de noter, c'est que c'est d'abord une intelligence. On aurait pu dire la deuxième intelligence ou la troisième, on a dit artificielle. C'est une façon de dire notre intelligence en tant qu'humain, elle est spéciale, elle est sacrée. Celle-là, elle est juste artificielle. C'est comme si on aurait un bras artificiel tout à l'heure, qu'on ne dirait pas toujours un bras artificiel. Si, Ghislain, vous avez quelqu'un, par exemple, qui est amputé, mais qui, avec un bras artificiel connecté à son cerveau, lui dit, touche ce micro, et il le touche. Ça n'a rien de méchant. C'est juste une aide. Donc le cerveau qui a été conçu par le créateur envoie des informations au bras mécanique. Il dit, touche-moi ce micro et il le touche. Donc moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est plus un bénéfice pour l'humanité que ce soit un adversaire. Bien sûr, il faut qu'on soit d'accord que c'est juste une imitation logique, ça n'a rien d'un remplacement. D'ailleurs, l'intelligence artificielle n'est pas autonome, contrairement à l'homme.
Est-ce que le problème, ce n'est pas parce que la société elle-même déjà a cette dualité-là, du bien et du mal, qu'on est autant versé sur le côté pervers ou les dangers de la chose ?
Alors, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que il faut savoir que quand on ne maîtrise pas quelque chose, on en a peur. Et pour le moment, en tout cas, au stade où on est en train de concevoir, on est en train d'expérimenter, on est en train d'essayer, on est en train d'imaginer quelque chose qui est en train d'être construit. D'ailleurs, je vais un peu corriger tout le monde, pas que je veux faire l'enseignante, mais quand on prend l'intelligence artificielle, parce que justement, ce sont des données qu'on utilise, et parce que ce sont des informations qui sont aussi sacrées que l'homme, la limite, elle se met dès la base. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de concevoir une intelligence artificielle, vous allez décrire le processus. Mais pour décrire le processus, vous allez fixer un objectif et une finalité. Et ça, ça se retrouve dans les textes de loi qui sont relatifs à la protection des données à caractère personnel. Et bon, souvent, les techniciens n'aiment pas trop qu'on leur dise ça. Ah, mais ça, c'est pas notre côté, c'est le côté des juristes. Non, c'est votre côté. Vous êtes obligé de déterminer ce pourquoi vous mettez en place une intelligence artificielle. Je vais reprendre mon exemple des cartes de fidélité. Si vous donnez une carte de fidélité à quelqu'un pour pouvoir lui donner des points chaque fois qu'il va acheter, disons, du papier aluminium pour couvrir ses repas, c'est parce que lui, il va souvent acheter ces papiers-là. Et ce sont ces papiers qui vont rapporter les points et pas pour autre chose. Vous lui avez dit que c'était pour pouvoir lui donner des points par rapport à ses achats. Si demain, il retrouve ces informations-là dans un autre service ou dans un autre, on va dire, pour un autre produit, il va se poser des questions. Parce que dès le départ, vous lui avez bien dit clairement que c'était pour lui octroyer des points. Alors, comment d'octroyer les points, il retrouve ces informations dans une autre boutique où il n'a jamais eu l'intention de partir ou bien où il ne va pas du tout, mais simplement parce que vous n'avez pas été clair sur votre objet ou alors vous avez dépassé la finalité pour laquelle vous aviez collecté les informations qu'il vous a données avec son consentement et au regard de la finalité que vous avez fixée. Donc ça, c'est déjà, c'est une première limite pour l'intelligence artificielle.
Pour l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Et quand on ramène justement cette technologie, cette révolution en Afrique, que dit notre législation sur
la question ? Notre législation, en fait, si vous voulez, je repars à chaque fois sur la protection des données à caractère personnel, puis sur toutes les lois qui vont protéger contre la cybercriminalité et dans certains États comme au Congo, les lois qui sont relatives à la cybersécurité qui, elles, posent des obligations. Mmh. Alors, on n'a pas écrit textuellement intelligence artificielle, mais c'est marqué tout outil qui pourrait utiliser des algorithmes. Donc, à chaque fois, il va simplement falloir repartir sur les bases de la loi de protection des données à caractère personnel. Mmh. Parce que c'est des informations que vous traitez. D'abord, vous les collectez. Ensuite, vous traitez. Après, vous échangez. Donc, toutes les législations qui vont protéger des données à caractère personnel vont être convoquées justement pour établir ces limites-là. Donc, en Afrique, notamment, on n'a pas encore, tous les États n'ont pas encore de loi de protection, mais on en a quand même un certain nombre. Bon, en Côte d'Ivoire, on peut être fier d'avoir une loi, même si on a encore beaucoup de choses à revoir par rapport aux adaptations. Mais quand même, le corpus existe déjà. Mmh. C'est juste qu'il faudrait qu'on aide suffisamment les techniciens et toutes les personnes justement qui composent, qui créent l'intelligence artificielle à comprendre le dispositif légal. Parce qu'il existe. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis loi de protection contre ou bien pour l'intelligence artificielle qu'on n'est pas concerné. On est tous concernés par tout ce qui est relatif à la détermination de l'intérêt légitime, à la finalité, à l'objectif pour lequel on crée l'intelligence artificielle.
Mmh. Alors, moi, je prends l'exemple des images. Hein. On va dans le domaine des images, tout ce qui est visuel. Mmh. Et avec l'IA, il y a aujourd'hui la possibilité de fabriquer des images qu'on a à l'esprit, de se plonger dans un monde irréel et de rendre ça visible vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on partage même souvent cela. Et le danger, il y a un danger véritable ici, parce que ça crée confusion par moment et ça déstabilise carrément, ça choque les opinions et tout. Et dans ce sens-là, justement, vous, dans la technicité, comment est-ce que vous menez vos actions pour véritablement clarifier les choses? Parce qu'elle le disait, l'intelligence artificielle existe, il y a des process, mais il y a aussi l'intelligence humaine qui existe, ou des faits réels qui sont portés par l'homme. Mais comment dissocier justement la réalité des œuvres venant de l'IA?
Le véritable problème, c'est que le virtuel commence à prendre de l'ascendant sur le réel, dans la mesure où, pour développer une image avec un logiciel, ça me mettrait peut-être une ou deux heures de temps. Mais avec aujourd'hui Midjourney ou bien DALL-E, je le fais en 45 secondes. Je peux demander, par exemple, à l'intelligence artificielle de me montrer une poule, par exemple, qui bosse au bureau.
Ouais.
Elle va me produire quelque chose d'assez intéressant. Je peux lui demander, mais écoute, moi, je veux voir Usain Bolt en train de faire de la sauce graine, ou il va me le produire. Assez intéressant quand même. Le problème ici, c'est peut-être le juriste va me compléter ou peut-être éclaircir. Le problème ici, c'est qu'il y a une impossibilité presque de pouvoir trouver du copyright à ce niveau-là. L'intelligence artificielle a puisé dans une base de données où elle a peut-être 200, 150 milliards de combinaisons possibles de Usain Bolt. Son visage, son nez, ses yeux, et puis sa corpulence, ses tics quand il bouge, ses formes et tout cela dans la cuisine. Seulement que ces images-là appartiennent à des gens, des photographes, des illustrateurs et tout et tout, et que lui, il a récupéré et qu'il a formé quelque chose d'assez intéressant. Mmh. Donc là, déjà, le premier problème qui se pose, c'est le copyright, le droit d'auteur. Voilà, le droit d'auteur. La deuxième chose, c'est le danger de déstabilisation sociale. Si j'ai aujourd'hui une image de Ghislain, Ghislain est peut-être député, ou je dirais candidat pour être député quelque part à Abidjan, et je vois Ghislain dans la boue et tout ça. Midjourney ou bien Dall-E ne sait pas que Ghislain a forcément des idées de devenir député ou de faire de la politique. Lui me donne l'image et moi je le produis sur les réseaux sociaux et puis... Voilà comment est-ce que ton image est écorchée. Donc ça peut créer des déstabilisations au niveau social. Le problème, comme je l'ai dit déjà, c'est de travailler au niveau moral, pas forcément au niveau technique. Le niveau technique, comme je l'ai dit...
Les codes sont déjà établis.
C'est déjà établi. Le virtuel a déjà pris l'ascendant sur le réel. Le réel ne peut user que de morale ou d'éthique pour pouvoir trouver vraiment une solution à ce niveau-là. Mais pour les images, c'est vraiment encore beaucoup plus difficile. Voilà, dans la mesure où ça peut vraiment créer beaucoup, beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, ça en a déjà créé.
Est-ce que ceux qui génèrent ces images-là ne doivent pas, par exemple, préciser que cette image est de l'intelligence artificielle? Mais ça, c'est la bonne foi.
Oui,
ça, c'est... Certains peuvent être de mauvaise foi.
Le véritable problème ici, c'est que la machine ne peut pas dire ou qu'elle n'a pas été conçue pour dire. Elle ne peut pas dire dans la mesure où elle a eu recours à 200 sources pour produire une image. Doit-elle recenser ces 200 sources-là? Un photographe à Abidjan, un autre photographe en Californie, un illustrateur à Paris, ça c'est autre chose, alors qu'on veut une image et non un test. Donc, le véritable problème au niveau des images, je veux dire, particulièrement au niveau des images, encore, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, est-ce que c'est possible pour un robot d'attribuer un droit d'auteur à Imam ou
à Jean-Marc
ou
à Docteur Janine.
Voilà la véritable.
Il puise dans des bases.
Absolument. Il puise dans des bases, mais seulement que ces bases-là.
Non, pas forcément tout spécifié.
Voilà. Même quand c'est spécifié, il ne le fait pas, il ne le dit pas. Ouais.
On va aborder la question de l'éducation à ces questions-là, telles que l'IA ou d'autres enjeux importants. Au niveau de la religion, au niveau. De votre mosquée, Imam Diaby, c'est la mosquée Al-Farouk. Vous avez des sessions où vous rencontrez des jeunes, les croyants de façon générale, pendant les prêches et tout. Est-ce qu'il vous arrive d'évoquer ces sujets-là, liés aujourd'hui au numérique et tout ça?
Ben, nous abordons tous les sujets. Et il faut dire que l'imam est aussi chef scout.
Ah oui.
Donc, oui, effectivement, je suis membre des éclaireuses et éclaireurs de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le scoutisme laïque.
Scout toujours prêt.
Non,
donc, vous êtes toujours prêt.
Membre des EDCI.
Ouais.
Il faut dire que cette question de l'intelligence artificielle, pour ma part, est une opportunité qui nous interpelle tous et qui est censée nous ramener à la réalité. J'aime bien au scoutisme le fait que les gens, souvent, ils dorment dans des villas cossues. Ils sont, n'est-ce pas, véhiculés et ils ont la possibilité, n'est-ce pas, d'être dans des hôtels 5 étoiles. Mais le modèle éducatif scout consiste à ramener tout le monde à la nature.
Exactement.
N'est-ce pas? Voilà, il faut se couper à un moment donné de tous ces high-tech et revenir à notre nature réelle, je vais dire notre nature primaire. Voilà, donc aujourd'hui, nous comprenons que si nous ne faisons pas attention, l'artificiel ou les outils que l'homme fabrique, n'est-ce pas, vont nous mettre, n'est-ce pas, dans une impasse.
Yao Jules disait que le virtuel
a pris
le dessus sur le réel.
Donc, ce qu'il faut... En fait, il faut trouver, je crois, les fondamentaux de toutes nos religions, et puis inculquer ça aux uns et aux autres. Parce qu'il va arriver un moment, c'est l'éducation seule qui va nous protéger.
D'où la question de l'éthique.
Voilà, il faut qu'on inculque aux gens des valeurs. Parce que souvent, il nous arrive de croire que la religion est démodée, la religion est dépassée. L'être humain, n'est-ce pas, il peut tout faire par la technique. Et aujourd'hui, on a atteint le fond, en fait, du gouffre. On comprend que si on se base seulement sur ce qu'on est capable de générer en tant que connaissance, en tant que technologie, sans avoir un petit quelque chose, n'est-ce pas, qui nous oriente par derrière, on va finir, n'est-ce pas, par se faire harakiri. Voilà, donc aujourd'hui, il est fondamental d'enseigner à tout le monde que c'est vrai, nous avons la possibilité, matériellement parlant, de faire beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas que, je dirais, un assemblage de chair, d'algorithmes, de ceci et de cela. L'être humain, il vient de quelque part et il s'en va quelque part. Nous avons compte à rendre, nous avons un bilan à faire demain et nous avons quelque chose à bâtir en dehors de ce que nous bâtissons de matériel. Voilà, nous sommes en mission ici en fait. Voilà, donc si tout le monde ne revient pas un peu, même ceux qui ne sont pas forcément de religion, je dirais, livresque, de religion céleste, il faut que nous puissions trouver dans ce qu'ils pratiquent des enseignements pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, tous vulgariser quelque chose auprès de leurs oies. Sinon, il va arriver un moment, tout ce que nous sommes capables de produire va finir par nous engloutir, comme le technicien nous en parlait de Frankenstein, n'est-ce pas, le monstre, il se nourrit, mais un moment va arriver, il va nous absorber.
C'est ça. Voilà. Bien. Et puis, on va avoir aussi l'avis de Jean-Marc Lecadou, justement sur la question de l'éducation. Jean-Marc Lecadou.
Très bien. Donc,
concernant l'éducation.
Je fais un rapport rapidement, en rebondissant rapidement sur ce que mon frère Yao a dit. Alors, il a parlé donc du bras coupé, du manchot. Alors là, ici, on voit qu'il y a un défaut. En temps normal, on naît avec des membres supérieurs et inférieurs. Là, il y a un défaut et la médecine vient au secours de ce défaut-là en créant un bras dit artificiel. C'est bon. Là, il n'y a pas de problème qu'on appelle une prothèse. Il n'y a pas de problème. C'est parce qu'il y a eu un défaut qu'on a envoyé donc le bras dit artificiel pour pallier à ce défaut. Dans le cas-ci de l'intelligence dite artificielle, est-ce qu'il y a un défaut de l'intelligence? Et moi, je veux foncer droit au but. Est-ce qu'il y a un défaut de l'intelligence humaine, des sens divines? Et je soupçonne, pour le moins qu'on puisse dire, donc une atteinte à la liberté de l'intelligence, une atteinte à l'expression de l'intelligence dans son acception divine, à travers donc l'intitulé même intelligence artificielle. Bon, je prends des risques à la radio, je le dis, ça n'engage que moi. Mais ce groupe de mots adjectival, pour moi, pose problème en ce sens que l'intelligence, ce don précieux là, il doit être du domaine de l'homme et non de la machine. Deuxième point que mon frère Yao a eu à dire, sur lequel je veux rebondir, c'est les questionnements que je ne cesse de me faire sur le caractère, j'allais dire, innovant à tout point de vue de l'intelligence dite artificielle. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'innovation de façon intégrale. Mais il y a seulement une certaine évolution de la machine. Okay? Donc de l'usage de l'outil informatique. Donc on est allé véritablement dans une dimension encore un peu plus poussée. Il a dit, et je suis très à l'aise parce que je suis homme de marketing, de communication, si je veux faire donc un Usain Bolt, le représenter sur une image et puis le balancer sur un réseau social, je le fais en 45 secondes. Alors que peut-être dans une agence de com, ça me prendra peut-être 24 heures, 48 heures avec les débriefs du client, etc. Oui, c'est vrai. On a donc une réduction drastique de temps. Donc on a un gain de temps. Ça nous emmène à quoi? Donc à la définition du temps par rapport à l'argent. Donc la sempiternelle question de l'argent.
Qui revient.
Money. Make money. Gagnons du temps. Et cette question de gagner du temps, ouais. du temps nous a encore renvoyé à un problème, enfin, à créer un problème avec les OGM.
Oui.
Mmh. Donc, on produit agriculture hyper intensive, mais derrière, des maladies. Derrière, des maladies. Et donc, c'est la même problématique qui se pose avec une intelligence dite artificielle et une intelligence, j'allais dire, naturelle. Une intelligence qui doit s'épanouir selon que mon ancien donc, m'ait donné ces informations-là. Il a dit l'intelligence... C'est vrai qu'il y a l'intelligence liée au fait que vous avez une éducation, l'intelligence issue donc de l'école, etc. Oui. Mais l'intelligence se nourrit de son environnement. Donc, de votre capacité, pour ce qui est donc de nous, Africains, à observer les choses de la nature, donc la flore et la faune, c'est ces éléments-là, cette communication, cette interaction dynamique entre l'homme et la nature qui nourrit véritablement l'intelligence et qui lui donne de faire des bons tout en restant dans un équilibre, sans bouleverser l'ordre naturel des choses. Donc, pour revenir sur la question de l'éducation, par rapport donc à l'intelligence artificielle, je dis toujours la même chose. Il faut éduquer sur la question de l'intelligence dite artificielle dans les limites de notre liberté et notre dignité humaine. Et pour ça, je vais saluer, je vais en appeler aux juristes, donc ma soeur, le docteur, pour que véritablement, très rapidement, des initiatives soient prises au plan citoyen, au plan institutionnel, donc le Parlement, pour qu'en Côte d'Ivoire, et pourquoi pas en Afrique, on puisse mettre des balises. Parce que je sais que les jeunes Ivoiriens sont très intelligents, doués, mais ils n'ont pas forcément la sagesse nécessaire pour... éviter certains problèmes qui peuvent nous retomber dessus.
Et nous refermons ici cette émission sur l'intelligence artificielle, avec pour thème l'intelligence artificielle, quelle solution de valeur pour l'humanité. Nous avons évoqué la définition et aussi la question de l'éthique vis-à-vis des croyances. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de cette émission.
Sujet de discussion.